Merci beaucoup d'être avec nous en direct.
Bah, je vous en prie.
Voilà, donc pendant un petit quart d'heure avec les auditeurs, nous avons parlé de zones, de parleurs, de batailles, de rois et d'éléphants. J'ai lu un petit extrait de zones concernant une anecdote croustillante de Don Quichotte sur un port de Barcelone qui se fait corriger à l'épée.
De Cervantes lui-même, vous voulez dire
Oui, pas Don Quichotte, de Cervantes lui-même, exactement. Avant même qu'il écrive Don Quichotte, c'est vous
qui
indiquez. Mais nous allons commencer plutôt par parleurs de batailles, de rois et d'éléphants.
Avec grand plaisir.
Et pour commencer par ce livre-là, j'aimerais commencer par les sources. Et pour commencer par les sources, c'est-à-dire je vais commencer par votre note à la fin du livre qui les cite. Et vous terminez avec ces mots magnifiques. Pour le reste, on n'en sait rien. Donc pour résumer, vous tombez sur quelques documents autour de Michel-Ange. Mais j'imagine que ce que vous cherchiez avant tout à cette époque-là, c'était une histoire qui se passe à Istanbul et l'arrivée dans cette ville d'un occidental. Est-ce d'abord ça que vous cherchiez, c'est-à-dire une histoire qui se passait à Istanbul et l'arrivée dans cette ville d'un occidental?
Non, pas vraiment un occidental. Non, disons que quand j'ai découvert surtout cette anecdote sur dans une biographie de Michel-Ange, je me suis dit ce qui est extraordinaire là-dedans, c'est justement d'avoir la possibilité de l'envoyer. C'est-à-dire que puisqu'on sait que cette anecdote est réelle, est historique, du moins l'invitation, parce qu'on sait que le sultan de Constantinople a eu envie d'inviter un artiste italien pour construire un pont au milieu de sa capitale, ce qui est magnifique, c'est de pouvoir l'y envoyer, quoi. Donc j'ai décidé de le faire, et après je me suis dit, bon, quelles sont les sources dont on dispose, et j'ai travaillé à partir de ça, en ayant pris le parti pris que de toute façon, que cette anecdote soit vraie ou pas, je l'ai enverré, quoi. C'est-à-dire que le voyage a eu lieu ou non, c'était pas ma question. Finalement, j'avais décidé qu'il était vrai. Et c'était ça qui comptait pour moi.
Cette anecdote, vous l'avez eue en étant à la Villa Médicis en 2005.
Exactement.
Vous avez l'anecdote et juste après, vous avez cherché du coup des éléments historiques.
Oui, c'est-à-dire que quand j'ai découvert ça dans la biographie d'Ascanio Condivi, de Vasari d'abord, qui était très succinct, en fait, il y consacrait une ligne. Donc on est en 1506, Michel-Ange vient de se fâcher avec le pape, il vient de partir sur un coup de tête, de quitter Rome pour rentrer chez lui à Florence, parce qu'en plus il est persuadé d'être menacé, et quelques jours plus tard il reçoit donc cette invitation par l'intermédiaire de moines franciscains. Et donc j'ai cherché ça dans d'autres biographies de Michel-Ange, et notamment celle d'Ascanio Condivi, qui est un peu son premier biographe, qui était un de ses amis, et donc on sait que c'est pratiquement Michel-Ange qui lui dicte en fait sa biographie pratiquement. Donc c'est presque une autobiographie. Et là on en savait un peu plus, on savait notamment que voilà, l'invitation était pour construire un pont à Constantinople sur la Corne d'Or. Et je me suis dit, tiens, c'est amusant parce que à l'époque, Michel-Ange n'est pas encore architecte. Il n'est même pas peintre encore. Hein. Il est surtout connu parce qu'il est sculpteur. Et donc, je me suis tout de suite interrogé, tiens, c'est étrange que le sultan ait eu envie d'inviter Michel-Ange pour construire un pont. Et c'est là qu'en cherchant plus, je me suis rendu compte que le sultan avait déjà proposé à Léonard de Vinci, qui lui avait envoyé un dessin que très certainement les Ottomans ont refusé parce qu'ils l'ont jugé impossible à construire. Puisque c'était un dessin très très audacieux qui franchit la Corne d'Or d'une seule portée et donc une voûte en pierre de 400 mètres. À l'époque, évidemment, c'était impossible à construire. Donc, ça montre que le sultan, lui, était très bien renseigné le sultan, ou sa cour, hein, c'est pas forcément lui directement, mais en tout cas les gens qui lui étaient proches, étaient très bien renseignés sur les artistes qui comptaient en Italie à l'époque. Et c'est ça qui m'a vraiment intrigué.
Alors, à partir de cette documentation succincte, comment se met en place l'idée, le déclencheur pour construire une histoire avec, pour inventer le reste dont on sait rien?
Oui, alors, ça effectivement, ça a été le... Bah, disons que j'avais quand même tous les éléments, parce que je savais que Michel-Ange, c'est quand même un des artistes sur lesquels on a le plus écrit dans l'histoire de l'art. La bibliographie sur Michel-Ange est gigantesque, tous les aspects possibles de son œuvre, aspects historiques, artistiques, philosophiques, on a vraiment littéraires, il y a vraiment de tout. Et donc je me suis dit, j'ai à peu près tout lu, notamment sa correspondance, son œuvre poétique, beaucoup d'études. Et j'ai fait la même chose du côté ottoman. J'ai essayé de lire le plus possible et de découvrir voilà, quel était le personnel politique, les artistes, les poètes. Et c'est là que je suis tombé sur le deuxième personnage principal de ce livre, qui est donc le poète ottoman Messihi, qui donc est un peu le double ottoman de Michel-Ange, quoi, enfin double inversé. Et c'est là que j'ai été très très heureux de découvrir ce personnage. Finalement, tout le livre s'est construit par ces découvertes dans les hasards de la documentation.
Voilà, c'est par la documentation que c'est arrivé, parce que voilà, vous parlez de Messihi de Pristina, qui était le grand poète qui travaillait pour le vizir, parce que votre livre, c'est presque une histoire un peu d'amitié en quelques mois autour de Michel-Ange et de Messihi de Pristina.
Oui, c'est très juste, c'est une histoire d'amitié entre les deux, même plus d'amitié, puisque ce que j'imagine, c'est que Messihi de Pristina, qui est connu pour sa passion aussi pour les hommes et les éphèbes, tombe amoureux de Michel-Ange. Et disons que ce qui m'a fasciné dans le personnage de Messihi de Pristina, c'est que il est à l'opposé de Michel-Ange. Michel-Ange meurt très âgé, à près de 90 ans, célèbre, richissime. Messihi meurt jeune, absolument inconnu, oublié de tous à un moment donné. Michel-Ange est extraordinairement sobre, il ne boit pas, il mange très peu, il passe son temps à travailler. Là où Messihi est un bon vivant, un peu un ivrogne qui fréquente les tavernes. Donc ils sont vraiment à l'opposé l'un de l'autre. L'un est chrétien, l'autre musulman. Tous les opposés. Et c'était assez fascinant cette rencontre.
Et en même temps, dans cette capacité de la documentation, enfin, soudain vous trouvez dans la documentation cette histoire de pont, et là vous trouvez le symbole qui est un peu résume, enfin, qui est votre travail sur vos différents livres, notamment dans Zone, c'est le symbole du pont, la construction de ce pont par Michel-Ange, qui serait comme un symbole entre l'Occident et l'Orient. Ça, c'est un super hasard de la documentation.
Oui, mais justement, c'est ce qui m'ennuyait au départ. J'étais très embêté par le fait que ce soit un pont.
Parce que c'était trop...
Que l'objet de la commande soit un pont.
Parce que là, c'était trop voyant, du coup, peut-être.
Parce qu'un pont, oui, justement, voilà, c'est un symbole un peu trop évident, trop facile. Bref, j'étais très embêté. Et je me suis dit, tiens, je vais plutôt l'envoyer construire une coupole. Ça me semblait d'abord architecturalement beaucoup plus intéressant. Et ensuite, c'était beaucoup moins chargé symboliquement, tout en gardant quand même quelque chose de fort. Et puis je me suis dit, je pourrais aussi imaginer que, par exemple, Michel-Ange rencontre l'architecte Sinan, qui est le grand architecte ottoman du règne de Soleiman. Et puis après, je me suis rendu compte que, bon, à l'époque, Sinan avait 18 ans, il était encore militaire dans les Balkans. Bref, que Michel-Ange construirait des coupoles que beaucoup, beaucoup plus tard. Enfin, bref, que tout ça, non, qu'il fallait s'en tenir à l'invitation, voilà. Et l'invitation, c'était un pont. Mais le problème du symbole du pont, c'était pas tellement que ce soit trop évident, c'était que un pont, ça suppose qu'il y a une rivière dessous. Et donc, s'il faut construire un pont, ça veut dire qu'il y a une réelle frontière entre Orient et Occident. Or, l'Orient et l'Occident, pour moi, sont des choses, des concepts absolument inventés au 18e et 19e siècle, qui recoupent aucune réalité. Donc, moi, ce qui m'intéressait de montrer, c'était au contraire que ces frontières qu'on pense tout à fait réelles et ces concepts qui nous paraissent absolument évidents et sont tout à fait possibles à déplacer et même à abolir.
Alors, on reviendra sur cette question de frontières et de pont entre Orient et Occident, parce que c'est vraiment le cœur de votre travail fictionnel. J'aimerais terminer sur la documentation. Est-ce qu'on peut dire alors que...
Sur la
documentation.
Oui.
Et est-ce qu'on peut dire alors que votre livre s'est construit par la documentation?
Oui, en quelque sorte, bien sûr. Oui. Disons que c'est le réel qui fournit le matériau de la fiction. C'est ce qu'on peut trouver dans les livres d'histoire qui nous fournit matière à travailler le roman.
Et ça, vous avez senti assez rapidement que ça ne vous entraînerait pas vers une fiction très, très épaisse, très très longue, mais plutôt vers quelque chose d'assez court, une forme peut-être assez beaucoup plus légère, résolument plus petit, en tout cas après l'énorme travail que vous avez fourni sur Zone.
Oui, disons que la forme s'est imposée à moi tout de suite, puisque j'avais vraiment envie de faire un carnet de croquis, un peu comme Michel-Ange dessine, et on a ses carnets de dessin et tout ça. Je me suis dit, ce qu'il faut faire, c'est ça, c'est un carnet où on passe les pages, dessin après dessin, et on avance dans l'œuvre d'une façon très... par petites touches pratiquement, hein, des chapitres courts, une situation précise. Et à la fin, on finit par avoir le dessin en entier. C'était ça le projet de départ. Donc évidemment, peut-être j'aurais pas eu cette idée-là si je sortais pas d'un livre de 520 pages d'une seule phrase. C'est fort possible. Mais en tout cas, ça s'est imposé à moi comme ça.
Alors, ce récit très précis, est-ce qu'il sert aussi à combler ce que l'historien ne sait pas ? Quelles limites vous vous êtes fixé, vous, à l'invention ? Parce qu'il est très, très documenté, mais en même temps, il y a une part d'invention forte. Quelles limites vous-même vous êtes-vous fixé ?
Je me suis pas fixé de limite. Je me suis pas fixé de limite du tout. Je me suis dit... Je pouvais tout inventer, tout en restant quand même dans les cadres de ce que j'avais décidé au départ, c'est-à-dire de diviser la documentation. Mais si quelque chose il manquait, évidemment, l'histoire ne nous donne pas ni des dialogues, ni des histoires très précises. Donc tout ça, il faut l'inventer. De toute façon, ça fait partie du projet du roman. Moi, je me sens toujours tout à fait libre vis-à-vis de la fiction. C'est très souvent dans mes livres les personnages historiques qui, justement, assument la fiction. Et les histoires vraies sont plutôt portées par des personnages de fiction. Donc là, ça me semblait tout à fait logique d'être obligé d'inventer sur Michel-Ange. Mais inventer dans un sens en restant plausible. C'est-à-dire en essayant de cerner vraiment le personnage et en essayant de donner une image au plus juste. C'est-à-dire que là où l'histoire n'avait pas décidé, c'est pas moi qui allais décider à sa place. Notamment, par exemple, en ce qui concerne sa sexualité, c'est pas très clair s'il était homosexuel ou non, les historiens sont pas très d'accord là-dessus, enfin bref. Et donc, moi, j'ai pas décidé non plus. Et ainsi de suite. C'est-à-dire que j'avais des données, quand même, qui formaient un peu les barrières, les limites. Et au milieu de tout ça, j'étais tout à fait libre.
Parce qu'à lire Parleur de bataille d'éléphant, on a parfois l'impression que vous racontez une histoire à la manière d'un conte et que cette forme conte est assez présente dedans. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai lu. Et que j'ai trouvé que peut-être vous racontiez cette histoire à la manière d'un conte pour vite vous débarrasser du poids de la documentation massive sur Michel-Ange.
Oui, il y a quelque chose de ça, sans doute. Donc l'aspect conte vient... Ça m'intéressait beaucoup de faire raconter des images et des histoires à Michel-Ange, à l'oreille de Michel-Ange. Voilà. Puisqu'on sait que lui-même appréciait les récits, et je me suis dit, tiens, voilà, c'est très bien d'avoir cette voix qui lui parle dans la nuit et qui va lui raconter des histoires. Et c'est ce qui donne un peu l'aspect conte. Tout ça mêlé au fait que la grande tradition poétique qui est présente dans ce texte, c'est la littérature, et notamment la poésie classique, persane et ottomane, où il y a aussi toute une grande tradition de poésie narrative. Et donc, c'était aussi rendre un hommage à tous ces récits et toutes ces histoires qui se transmettaient par les poètes de l'époque.
Et ça a été votre source d'inspiration principale, du coup, dans la forme littéraire ?
Oui, c'était une des sources tout à fait précises de Parleur de bataille, de Roi et d'éléphant.
Et ça, c'est plutôt une littérature qui nous est pas forcément très très connue à nous, enfin nous français. Vous avez trouvé cette tradition.
Allô,
vous m'entendez ?
Oui, je vous entends.
Vous avez trouvé cette tradition, enfin par vos voyages, j'imagine, parce que c'est pas quelque chose qui nous est nous connu.
Arabisant et iranisant de formation, donc c'est des littératures et des poésies que j'ai beaucoup fréquentées.
Parce que du coup, un autre modèle que j'avais trouvé à Parleur de bataille de Roi d'éléphant, enfin un modèle du coup vraiment français, j'ai beaucoup pensé à Pierre Michon. J'ai trouvé qu'il y avait du Pierre Michon qui est vraiment un de nos aînés quand même, beaucoup plus vieux que nous.
Pierre Michon à qui je dois le titre.
D'accord.
puisque c'est lui qui parlait de cette phrase dans une interview, enfin qui parlait de ce texte de Kipling dans une interview, et c'est à lui que je dois. Oui.
D'accord. Vous devez carrément le titre de votre de parleur de bataille de roi d'éléphant, donc de Kipling, mais vous avez trouvé la formule dans Pierre Michon, du coup.
Oui.
Ah, d'accord.
Oui. Et d'autant plus, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup personnellement, et c'est un immense écrivain, donc c'était parfait. C'était aussi créer une autre filiation et encore un autre hommage à quelqu'un qui était très important pour moi.
Parce que comment avez-vous reçu les livres de Pierre Michon, justement ces vies minuscules, par exemple? J'avais beaucoup pensé aux vies minuscules, à tout ce travail historique qu'il fait.
Alors je pense que ça n'a rien à voir. Donc justement, les vies minuscules, c'est l'inverse de ce que je fais dans Parleur de bataille de roi d'éléphant. C'est traiter comme des vies de saints la vie d'anonymes et de gens qui n'ont pas juste eu accès justement à la grandeur de l'histoire. Donc il fait exactement l'inverse. Mais c'est un livre que j'adore, que je trouve extraordinaire.
Non, je parlais plus dans la forme de la langue.
Excusez-moi. Non, mais je pense que, oui.
Pas du projet, du coup, dans la forme de la langue. Et j'ai trouvé que dans votre manière d'utiliser la langue, qui est une langue vraiment différente de zone, je trouve, vous avez une langue qui me fait penser à la langue de Pierre Michon.
Non, c'est gentil de me dire ça, mais je pense que la sienne est éminemment bien plus belle et beaucoup plus magique et incantatrice que la mienne. C'est d'un naturel extraordinaire, d'ailleurs, cette façon d'écrire. Et en même temps, extraordinairement raffiné. Ce qui est loin d'être mon cas, je crois. Mais c'est bien comme objectif de se dire, un jour, j'écrirai peut-être une phrase de Pierre Michon.
Oh, vous en avez écrit plein, il me semble. On parlera de zone après, mais j'ai lu tout à l'heure un petit extrait de cette anecdote de Michel de Cervantes où vous avez cette phrase magnifique: l'homme est nu maintenant dans les méandres de la modernité. Ça, c'est une phrase sublime.
Ah oui, j'ai beaucoup aimé imaginer justement une espèce de scène primitive à Cervantes, le moment où lui viendrait un peu l'intuition de son œuvre, quoi. Et l'intuition du Quichotte, à quel moment est-ce qu'il a imaginé le Quichotte? Et j'ai imaginé que c'était après cette scène d'humiliation à Barcelone, où il avait entrevu justement que voilà, tout changeait, il n'y avait plus de chevaliers, plus de noblesse, plus rien, et l'homme était nu pour poursuivre sa course dans la modernité. Oui.
Cette phrase est... J'ai une grande admiration pour cette phrase. Vous voyez, hein, vous arrivez à faire des phrases comme du Pierre Michon. Alors, on va finir avec Parle-leur de bataille de roi et d'éléphant pour faire le lien avec Zone. Parle-leur de bataille de roi et d'éléphant, ça peut être lu comme un roman historique, mais qui est un miroir sur aujourd'hui. Toujours, il y a un miroir sur aujourd'hui, parce que tout votre sujet résonne sur c'est quoi les limites de l'Europe qui ne s'arrêtent pas aux frontières de la Turquie. Et ce que vous nous avez dit tout à l'heure, c'est que pour vous, cette construction européenne du 18e siècle de la frontière entre Orient et Occident qui n'existe pas.
Bah, disons que l'Europe ne correspond pas forcément à l'Occident. C'est-à-dire que dans ce cas-là, la Turquie est en Europe. Ça, géographiquement, personne ne peut le nier. Puisque la limite, c'est le Bosphore. Donc Istanbul est une des plus grandes villes d'Europe, vu qu'elle est majoritairement en Europe. Donc là-dessus, vous voyez, tout ça est indéniablement flou et difficile à déterminer, parce que si on dit l'Europe géographique, où commence l'Asie, par exemple, en Russie, à quel endroit? À l'Oural. Est-ce que l'Europe doit aller jusqu'à Vladivostok, du coup, puisque le territoire russe, qui est majoritairement en Europe, continue jusqu'au Pacifique? En bref, tout ça, c'est des questions qui n'ont pas de sens en elles-mêmes. Ce qu'il faut voir, c'est que il y a une Europe géographique dont on sait très bien qu'elle ne s'arrête pas avec les frontières de l'Union européenne. Et après, ce qu'il faut se demander, c'est quel est le projet de l'Union européenne. Est-ce qu'il a comme projet d'intégrer tous les pays qui forment l'Europe géographique? Ça, c'est une autre question qui n'a rien à voir avec celle ni de la position géographique des pays, ni avec la question de l'Orient et de l'Occident. De toute façon, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura, à plus ou moins long terme, très certainement deux pays musulmans dans l'Union européenne, qui sont l'Albanie et la Bosnie, on oublie toujours. Et on ne peut pas nier que l'Albanie soit vraiment en Europe. Hein. Alors là, pour le coup, si les Grecs y sont, il est impossible de dire que les Albanais n'y sont pas. Donc, après, c'est l'idée de l'identité du projet européen qu'il faut voir. Et ça, c'est aux citoyens européens de décider eux-mêmes. Mais en tout cas, on ne peut pas oublier ces questions.
Donc là, on est justement dans la zone géographique de votre grand livre zone. Pour commencer pour parler de zone, là, c'était une bonne entrée en matière. J'ai l'impression que dans Parle-leur de bataille de roi d'éléphant, vous vous attachez donc à quelques personnages, bien entendu Michel-Ange, Mézigide Pressina, et que dans zone, votre intérêt pour les personnages, là, s'est démultiplié, a été démultiplié, puisque là, vous vous intéressez à une quantité astronomique de personnes réelles qui ont existé. Vous avez fouillé leur biographie et vous nous restituez tout cela dans zone avec un personnage inventé, ce personnage d'espion, de figure un peu cachée. Ma question, c'est: quelle est cette idée fictionnelle au départ de Zone? Vous aviez, j'imagine, une énorme documentation que vous vouliez exploiter. Est-ce que vous avez commencé par bâtir un peu ce personnage d'espion? Est-ce que c'était lui d'abord la charnière, la colonne vertébrale
de... Oui, bien sûr. Disons que c'est quand j'ai inventé ce personnage que j'ai pu réellement rassembler toutes les histoires qu'il y a dans Zone, dont je possédais, au moment de commencer l'écriture, je possédais déjà 90% du contenu. Ce que j'ignorais, c'était...
Oups. Carl, un petit morceau de musique, on rappelle Mathias Sénard.
C'est parti.
Allô?
Si, c'est revenu. Allô. C'est revenu, oui, c'est bon, c'est parfait, vous êtes revenu. Eh bien oui, nous sommes dans les conditions du direct au téléphone, c'est parfait.
c'est pas très simple, mais...
C'est bon, c'est revenu.
Voilà. Je n'entendais plus pendant un moment.
Voilà, et là vous m'entendez bien?
Oui, je l'entends parfaitement.
Eh bien, donc vous pouvez continuer. Vous étiez sur votre lancée en parlant d'abord que vous aviez 90% de votre documentation avant d'écrire Zone et que ce personnage d'espion était la colonne vertébrale de ce sur quoi allaient s'accrocher toutes ces fictions.
Oui, exactement. Ce que je disais, c'est qu'en fait, j'avais déjà le matériel de l'écriture de Zone au moment de l'écrire et que c'était la question, c'était de trouver comment les rassembler. Et c'est donc quand j'ai eu l'idée de cette voix, de la voix de Francis, qui allait assumer l'ensemble du récit, et que j'ai commencé à construire ce personnage, que le roman a pu se faire réellement, quoi. C'était vraiment à ce moment-là que j'ai pu articuler l'ensemble de ces contenus dans un seul livre.
Donc là, je vous imagine avec une énorme masse de documentation, encore plus importante que donc pour Parle-leur de bataille de rois et d'éléphants. Vous avez mis des années à rassembler cette masse de documentation historique. Là, vous vous dites, j'en fais un livre de fiction, puisque vous êtes un écrivain de fiction, vous inventez de la fiction, vous inventez ce personnage. Maintenant, quel travail avez-vous effectué pour rassembler cette documentation pour qu'elle soit directement utilisable là où vous en aviez besoin?
Oui, évidemment. Mais disons qu'après, affiner les questions, ça se fait au moment de l'écriture. C'est-à-dire qu'une fois que j'avais, en gros, plus ou moins toutes les histoires et la façon dont j'allais les traiter, je me suis dit, je vais essayer de les mettre en forme. Et donc, à partir du moment où l'écriture a commencé, forcément, il fallait préciser certaines choses. Il a précisé notamment, je prends un exemple plus concret pour ne pas rester dans l'abstrait. Il y a un des personnages du roman, par exemple, qui s'appelle Eduardo Rosa, qui est un personnage tout à fait réel, qui a été un peu le chef de la brigade internationale croate pendant la guerre. Bon. Donc je savais que je voulais parler de ce personnage, puisqu'il a un parcours absolument incroyable. Il est à moitié bolivien, à moitié hongrois, il a été journaliste, et c'est en étant journaliste en Croatie qu'il s'est décidé à prendre le côté des Croates. Bref, par la suite, il a été accusé de meurtre sur la personne d'un journaliste britannique pendant la guerre, enfin bref. Et donc je me suis dit, j'avais envie d'écrire sur lui, je savais son histoire, mais je ne l'avais pas encore contacté, et c'est en écrivant que je me suis dit, tiens, il faut lui donner plus de place et je vais essayer d'en savoir plus. Et j'ai pris contact avec lui directement. Et il m'a confié ses mémoires de guerre. Et donc voilà, le travail d'écriture, c'était comme ça.
Là, du coup, il vous confie ses mémoires de guerre, on va continuer. Et là, vous trouvez un autre matériel fictionnel qui vous donne envie d'orienter votre fiction et de donner une place plus importante à ce personnage.
Oui, exactement.
C'est comme ça que ça s'est constitué aussi.
Oui, petit à petit, par rebond, en fait.
Et donc, votre travail, vous, de créateur, d'écrivain pour faire de la fiction, ça a été de relier toutes ces histoires et de relier tous ces liens. Et voilà. Vous êtes Du coup, j'imagine à chaque fois, fallait qu'il y ait des liens. Alors, ça peut être un lien géographique, ça peut être une date. Comment vous avez fait fonctionner du coup ce système de liens?
Non, mais les transitions d'une chose à l'autre, tous les liens sont donnés presque par le réel. Ce sont des rebonds, quoi. Il suffit juste de regarder un peu où on marche et on en trouve toujours. Donc, si vous passez à Marseille, vous allez voir, près de la place de la Bourse, la plaque qui commémore l'assassinat du roi de Yougoslavie. Donc, et ça va vous renvoyer directement en Yougoslavie. Donc, le roman, finalement, bon, j'exagère un peu, il y avait parfois des transitions qui étaient plus difficiles à trouver que d'autres, mais ça s'est fait d'une façon très naturelle, c'est en me laissant guider par mes personnages, par mes histoires et tout ça.
Et à aucun moment vous êtes senti noyé par une vaste documentation où vous étiez là en vous disant je
non,
sais
non,
pas
non,
quoi en faire.
Non, c'est quelque
du
chose
tout.
qu'on assume, enfin qui est assumé dès le départ du projet. Moi, pour moi, enfin, disons qu'il y avait une méthode de travail, ça correspondait aussi à une méthode de travail. Le roman était construit vraiment un peu comme une vaste fresque sur un mur, un très grand mur. J'ai emprunté pour ça, enfin j'ai partagé l'atelier d'un camarade artiste peintre, et sur un mur j'avais des dizaines et des dizaines de post-it organisés selon le déroulement du livre, chaque post-it correspondant plus ou moins à une anecdote ou à un personnage, et j'avais toujours à peu près l'ensemble du livre sous les yeux. C'est ce qui me permettait, bien sûr, non seulement de pouvoir déplacer un épisode, mais aussi de m'assurer de la... Par exemple, chaque époque avait une couleur, plus ou moins. Et donc, je pouvais voir s'il y avait des petites taches, par exemple, si je me souviens bien, le orange correspondait aux années 40, et donc, s'il y avait trop d'orange dans un coin, ben, je l'étalais, quoi. Un peu dans le sens de la composition, presque musicale ou picturale. Et donc c'était comme ça que c'était possible. Je pouvais aussi déplacer un épisode. Enfin, j'avais vraiment tout le temps le livre sous les yeux, avec la carte d'Italie, bien sûr.
Donc là, vous aviez vraiment un grand, grand besoin d'espace, un grand besoin de voir loin et de voir toute la chronologie du livre en un seul
Oui,
coup d'œil.
Comme c'est un livre où on va tout apprendre, on va tout savoir sur Francis, finalement, et depuis bon, ses vacances, ses histoires d'amour, tout ça, on va tout savoir. Par fragments, un peu comme une mosaïque, on va poser une tesselle d'un côté, une autre de l'autre. Pour pouvoir faire ça, soit il faut avoir une mémoire absolument extraordinaire qui n'est pas forcément la mienne, soit il faut avoir justement des aides-mémoires sous les yeux, sinon ça ne fonctionne pas.
Vous vous êtes lancé dans cette aventure en sachant que ça allait être quelque chose de long, de très compliqué. J'aimerais parler de la généalogie littéraire pour Zone. Alors on a le nouveau roman avec ce voyage en train et ses souvenirs. Dans la forme de la phrase, je retrouve les grandes phrases épiques, notamment de Pierre Guyotat. Je ne sais pas si vous êtes lecteur de Pierre Guyotat.
Oui, bien sûr.
Et j'ai pensé aussi au
Eden, 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 vous voulez dire.
Comment? Oui, Eden, 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 par exemple, oui.
Oui, par exemple, effectivement, oui.
Et j'ai pensé aussi aux confessions à la fin d'Ulysse de Joyce. Est-ce que c'est toutes ces... Voilà, c'est quoi ces bases littéraires et fictionnelles, ces grands romans
non,
qui vous ont permis d'écrire Zone?
C'est possible, en fait. C'est certainement parce que j'ai lu Ulysse, et bon, notamment le monologue de Molly, et parce que j'ai lu Guyotat, et parce que j'aime beaucoup Claude Simon, que je me suis rendu compte que c'était possible d'écrire comme ça, en fait. Donc la filiation, c'est dans ce sens-là. Ce sont des gens qui m'ont montré la liberté, quoi. Et moi, je savais très bien que quand j'écrivais ma phrase de 500 pages, c'était pas un projet du tout que je concevais comme original. Je pensais pas du tout que la critique allait s'arrêter à ça. Parce qu'évidemment, plein de gens ont écrit des très grands livres d'une seule phrase. Donc, Solers, par exemple. Et c'était pour moi, tout simplement, la nécessité du livre, quand même. Et donc cette filiation littéraire dont vous parlez, c'est surtout sur le plan de sa possibilité. C'est-à-dire que justement, je me sentais dégagé du poids de l'avant-garde, puisque ça avait déjà été fait par beaucoup, et tous ces gens notamment qui m'ont montré la liberté.
Ils vous ont montré la liberté, donc vous n'utilisez pas une forme d'avant-garde. L'avant-garde que vous allez utiliser, ça va être d'en faire un roman aussi massif, aussi dense et aussi ambitieux.
Oui, peut-être, mais ça... disons que mon ambition tenait bien plus au contenu, à essayer de montrer un peu toute cette la folie de ce 20e siècle en Méditerranée et même au-delà du 20e siècle, de montrer la force terrifiante de ce c'est pas un continent mais ça pourrait l'être quoi hein, l'extraordinaire violence de cette zone justement et aussi son extraordinaire beauté et le mélange de ces cultures et de ces peuples et de toutes ces langues qui s'entrechoquent parfois de façon violente, c'était ça le projet en fait.
Vous avez parlé de l'ampleur de votre phrase comme si c'était une seule phrase. C'est vrai que il y avait cette réception de l'étonnement, enfin il y avait un étonnement de la critique sur le fait que c'était une seule phrase. Moi j'ai trouvé que votre livre au contraire est extraordinairement ponctué, qu'il est presque ponctué normalement, sauf que vous n'utilisez pas le point.
Oui bien sûr, de toute façon oui ce sont des phrases tout à fait normales, je suis d'accord avec vous, sauf que je remplace des points la plupart du temps par des virgules. Alors après il y a des périodes un peu plus longues qui parfois correspondent pas forcément un simple fait d'avoir enlevé un point. Et d'ailleurs, en fait, il y a plusieurs types de phrases dans le livre. Il y en a certaines qui sont beaucoup plus lâchées que d'autres. C'est pas toujours le même rythme. Et donc, oui, effectivement, je suis d'accord avec vous. Il n'y a pas de... C'est un peu que ça pourrait être un peu un genre de verset, quoi. Un peu un côté épos, justement, comme diraient les Grecs. Hein. C'est le fameux vers épique, mis bout à bout les uns les autres.
Bon. On parle beaucoup en parlant de zone à sa relation avec l'Iliade, avec ce grand voyage. J'y vois aussi des relations avec Don Quichotte. On a parlé de cette anecdote sur Cervantes, cette anecdote superbe. Parce que un peu votre travail sur zone, je l'ai perçu comme comment relier de la documentation historique par la puissance de la fiction. En fait, c'est la fiction qui fait tenir zone et c'est la fiction qui fait tenir et relier toute cette documentation historique et comment la fiction arrive à faire croire à une unité.
Oui, disons que la... Dans Zone, ce qui est quand même, je pense, très, assez important, c'est finalement le poids du réel, puisque là aussi, dans Zone, 80% des histoires sont vraies. Et le comme j'ai dit tout à l'heure, c'est surtout les personnages... historiques, hein, les plus connus, qui assument les histoires que j'invente moi, quand je raconte les histoires du roi d'Espagne en exil à Rome ou de la mort dans la SS en Syrie, tout ça, bien sûr, c'est inventé. C'est moi qui imagine et qui m'amuse aussi à imaginer. Mais, et donc, Zone est quand même un peu comme faisait Homer, hein, modestement. L'idée, c'est d'écrire avec Homère et sur Homère, et donc de faire de la littérature à partir de vérités historiques, comme certainement pour lui, ou mythiques, comme pour lui l'étaient les batailles dont il parle autour de Troie. C'était ça, vraiment, le projet de Homère.
Et c'est ça qui va continuer à être votre projet pour d'autres fictions ?
Alors, non, oui et non, parce que là, je me lance dans un projet que je trouve... J'en parle peut-être trop, si je devrais pas, donc ça s'est terminé en tout cas, mais qui est aussi un défi pour moi, parce que c'est voir l'histoire à travers un endroit où il ne se passe jamais rien. C'est m'intéresser justement à l'histoire rurale d'un village de l'ouest de la France, et c'est bien sûr tout autre type d'aventure. Là, pour le coup, je suis un peu désarmé, et donc j'apprends beaucoup de choses sur les vaches, les tracteurs et autres.
Et donc toujours sur une documentation, toujours sur du réel.
Oui, toujours, oui. Bah, d'abord parce que ça m'amuse. J'aime beaucoup apprendre des choses que j'ignore, donc c'est pour moi aussi très agréable. Et ensuite parce que, bah, je suppose que tous les écrivains sont pareils, mais c'est pas facile de... Enfin, on n'invente jamais à partir de rien. Ça, je crois pas que ça existe. Hein. L'imagination a besoin de support. Même si après, c'est pour oublier ou laisser tomber tous ces supports d'un coup. Mais on en a quand même besoin.
Et vous, parce que pour vous, j'ai l'impression que ça a vraiment un poids conséquent de par vos différents livres. Ce poids de la documentation, j'avais l'impression que c'était vraiment une marque de fabrique importante pour chez vous.
Oui, c'est possible. Je sais pas, parce qu'il me faudrait un point de comparaison, mais si je compare... à un de mes camarades, par exemple, que vous avez aussi longuement interviewé, Mathieu Larnaudy, lui aussi, par exemple, Les Effondrés, c'est un livre très très documenté.
Un livre très documenté, exactement. On a parlé quasiment que de documentation.
Donc, vous voyez, c'est quand même très... tout ça est relatif. Je sais pas, peut-être il existe des auteurs qui n'en ont pas besoin, mais j'en connais pas. Si je pense aussi à une autre de mes camarades, comme Maëlys de Kerangal, par exemple, sur son pont, c'est aussi extraordinairement documenté sur les techniques de construction, sur la, ce que c'est que l'ingénierie et tout ça.
D'accord. Très bien. Eh bien nous terminerons là-dessus, Mathias Sénard.
Je peux vous
libérer, il est bientôt 8h.
Merci beaucoup.
Et je vous remercie vraiment infiniment d'avoir répondu à nos questions en
direct. Je vous en prie, c'est un plaisir. Merci beaucoup.
En direct de Barcelone. Merci à vous.
Merci, au revoir.
Bonne soirée.
Au revoir.
Merci.